Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Xavier Mussat. Là, vous entendez? Non, c'est pas terrible. J'ai pas la voix qui porte suffisamment. J'ai pas la voix suffisamment cristalline. Je peux parler un petit peu plus comme ça pour pallier le micro qui est trop grave. Ouh, là, c'est peut-être un petit peu fort, non? Je vais être obligée de chuchoter, de susurrer. De dire bonjour à tous. Non. Non, c'est suffisamment fort. Ça va là comme ça, c'est mieux que tout à l'heure? Là, je continue de parler. Une petite chanson aussi, si vous voulez. C'est bien. C'est un peu fort maintenant. Ouais. Je peux continuer à parler. Je peux. C'est bien, c'est pas mal comme ça. Ok. Xavier, est-ce que c'est bien aussi?
Et moi, est-ce que c'est bien? Ouh là là, c'est fort. Non, ça va?
Bonjour, Xavier Mussat.
Bonjour, Sonia.
Merci d'être avec nous pour ce jeudi de la BD en partenariat avec le Saut BD qui a lieu donc ce week-end à la Halle des Blancs-Manteaux et dont la programmation s'étend jusqu'à fin janvier. Dans ce cadre-là, notez-le déjà bien dans vos agendas du 7 au 21 décembre à la galerie Cecilia F, l'exposition consacrée donc à l'œuvre de Xavier. Xavier, dans les jeudis de la bande dessinée, on s'intéresse particulièrement au début, aux premières fois. Et j'aimerais donc commencer cette rencontre en remontant un peu le temps. Est-ce que vous pouvez nous dire quel lecteur vous étiez enfant, adolescent, et quelle place est-ce que le dessin avait dans votre vie?
Ouh là là, il y a déjà au moins trois questions là.
Comme ça, vous pouvez choisir celle à laquelle vous préférez répondre.
Lecteur enfant, oui, j'étais un, je crois, un grand lecteur de bande dessinée, je crois, enfant. Je lisais beaucoup de franco-belge, je crois. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est loin tout ça maintenant. Hein.
Mais est-ce que cette lecture était liée aussi à une pratique du dessin et à l'envie de copier, l'envie peut-être de dessiner ou plus encore de raconter des histoires? Comment est-ce que finalement le fait d'être un lecteur, un grand lecteur, vous a permis de vous dire que peut-être c'était une voie possible?
Oh là là, alors le
Peut-être pas
je
enfant,
crois
sans doute plus tard.
qu'enfant, enfant, ouais, j'aimais beaucoup dessiner parce qu'en fait, clairement, j'aimais pas faire grand-chose d'autre, en fait. C'est souvent comme ça que les choses se font. Hein. J'aimais bien être tranquille, voilà, donc je dessinais parce que j'étais tranquille quand je dessinais. La question de la bande dessinée, elle est arrivée, mais alors c'est marrant, c'était de manière ultra passionnelle. D'ailleurs, c'est assez difficile d'en parler parce que quand je retombe sur des choses que j'ai pu écrire quand j'étais adolescent, je me rends compte à quel point j'étais vraiment enflammé par cette envie de bande dessinée, à un point que je comprends même pas en fait, parce que je sais pas. Mais ça a été, oui, ça a été une envie très tôt, je crois. Alors, j'osais pas me dire je serais auteur de bande dessinée, pas du tout. Je crois que je me sentais pas trop capable de faire ça. Mais je me sentais très animé par la question de la bande dessinée. Ça me faisait beaucoup réfléchir. Je me projetais moyennement là-dedans, mais je m'y intéressais beaucoup. Et puis, je crois que voilà, partant de là, oui, il y a eu une rencontre très importante. C'est un hasard, l'espèce de hasard de la vie comme ça. Je crois que j'ai 14 ans, j'habite au Pays Basque, il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, mon père, qui est professeur d'électronique dans un lycée de technique, a une collègue qui est professeur d'art plastique. Et elle lui dit: Ah, mon compagnon fait de la bande dessinée. Donc rencontrons-nous. Et donc on a été manger un soir chez ces gens. C'est un souvenir incroyable. Donc je rencontre ce monsieur qui était vraiment auteur de bande dessinée, qui publiait dans des revues, qui s'appelait Gérald Goridge. Et qui était jeune à
Professeur et
l'époque,
qui sera professeur ensuite
et
aux Beaux-Arts à
tout à
Angoulême.
fait, qui était jeune, très jeune à l'époque, et qui m'a fait rentrer dans son atelier. Alors c'était la première fois que je voyais ça, un atelier d'auteur de bande dessinée avec une grande table inclinée, tout ça. Et puis il m'a demandé de dessiner, et puis il m'a dit « Tu sais pas dessiner les oreilles ? Tiens, pourtant c'est très passionnant les oreilles. Regarde. » Et il s'est mis à me dessiner des oreilles. Ça m'a hyper marqué cette rencontre. Et puis un jour, il nous a envoyé une lettre en nous disant « Salut les copains, ben, en fait je m'en vais parce que j'ai été recruté pour devenir enseignant dans la première école de bande dessinée de France. » Et donc il est devenu professeur aux Beaux-Arts d'Angoulême, et c'est comme ça que j'ai appris que cette école existait. Et moi, j'étais au lycée à ce moment-là, et je crois que je me suis donné comme objectif de rentrer dans cette école pour que ce type soit mon prof, en fait. Et donc j'ai passé le concours, j'avais vraiment envie de faire ça. J'ai été pris dans cette école, j'ai fait une première année qui a été très, très importante, parce que c'est une année d'abord où j'ai rencontré d'autres jeunes qui avaient mon âge et qui voulaient faire de la bande dessinée, et je me suis rendu compte à quel point on n'avait rien à se dire. Ils n'étaient pas intéressants. Je me rappelle que mon voisin, c'était un jeune homme qui allait à l'école avec un sweatshirt, avec un dessin d'Hergé sur son sweat, parce qu'il faisait de la BD, il est très, très, très content. Et je ne suis pas arrivé au bon moment, en fait. Je ne trouvais pas de connexion. Et puis surtout, moi, j'étais pris par une pression sociale très forte. Ma mère était seule pour payer mon école. Je ne pouvais pas rester très longtemps. Mes parents étaient séparés, c'était compliqué. Il y avait une grande inquiétude sociale de la part de ma mère, hein, qui se demandait « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Et on fait donc une première année commune où on apprend un peu tout. Et puis où on va faire de la bande dessinée. Donc on passe le petit concours à la fin de l'année pour voir si on est reçu dans l'atelier de bande dessinée. Ou alors on demande autre chose, à faire autre chose. Et en fait, bon, je peux le dire, j'ai eu peur. En fait, j'ai eu peur de plein de choses. J'ai eu peur de me retrouver avec des gens pas intéressants en bande dessinée. J'ai eu peur de pas gagner ma vie, de pas y arriver. Et puis, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, j'ai aussi un petit peu découvert ce qu'était le graphisme. Et ça m'a hyper intéressé, en fait. Ça m'a vraiment intéressé. Et j'ai pas osé, j'ai même pas tenté le concours hein, pour entrer dans cet atelier. Et donc, je suis pas devenu élève de bande dessinée. Et là, à ce moment-là, la bande dessinée s'est complètement déposée. Ça m'est tombé des mains, mais j'en ai plus eu rien à faire. C'était un désintérêt total. J'en ai même fait un truc un peu presque de revendication, parce que je l'ai trouvé tellement pénible, ceux qui étaient dans cette école et qui faisaient ça, que c'était pour moi un truc de fierté, quoi, de pas être comme eux. Et en fait, voilà. Et le truc quand même qu'il faut savoir, c'est que j'ai passé 3 ans dans cette école, je n'ai jamais identifié Gérald Gorridge.
C'est vrai ?
Je ne l'ai jamais identifié. Il avait changé, il avait forci, il avait des lunettes, et comme j'étais très timide, j'ai jamais osé. Des fois, je croisais un gars, je me disais, et si c'était lui ?
Peut-être que c'est lui.
Et je me disais, mais si c'est lui, il va me reconnaître, il va me parler. Et je n'ai jamais su qui était Gérald Gorridge. J'ai dû le croiser un tas de fois, je l'ai pas reconnu. Et pour la petite anecdote, je suis resté après les Beaux-Arts à Angoulême quelques années, et juste avant de partir, enfin comme pas mal de temps, 16 ans, et juste avant de partir de l'école, j'ai fait une résidence à la Maison des auteurs d'Angoulême, et un jour, on m'appelle, on me dit, descends à l'accueil, il y a quelqu'un qui veut te parler au téléphone. Et donc je descends, je décroche, il me dit « Bonjour, c'est Gérald Gorridge. » J'étais comme un, j'allais dire comme un con, mais j'étais comme un... Je me suis senti bête. Je lui dis... Oui, c'est maintenant.
descendez. C'est la page de pub, comme ça on fait...
Qu'est-ce que je fais ? Je parle plus fort qu'elle, je peux, hein, si vous voulez.
Généralement, c'est court. D'habitude. J'ai l'impression d'être dans les sketchs des Robin des Bois. Je ne sais pas si vous regardiez.
Ça laisse un peu de temps retardataire, ouais, de s'installer.
Donc, Gérald Gorridge au téléphone.
Et je m'excuse, je lui dis, je suis désolé, je suis venu ici à Angoulême pour être ton élève et j'ai jamais osé te chercher. Et il m'appelle et puis il me dit « Écoute, je cherche quelqu'un pour être membre d'un jury pour c'était pour les diplômes pour la formation et j'ai pensé à toi. » Donc c'était une jolie manière de me dire qu'en fait, lui, il avait vu qui j'ai... Enfin, lui, il m'avait reconnu et voilà. Et finalement, j'ai pas fait ce jury parce que, voilà, je sais plus pourquoi. Et voilà. Et quelques années après, il est mort. Voilà. Et Je suis parti un peu sur des trucs là, mais enfin pour cette histoire de bande dessinée, voilà. Au moment où j'étais au Beaux-Arts cette première année, bah, ça m'est tombé des mains. J'ai plus du tout eu envie de faire ça. Et après, c'est l'histoire de rencontre.
C'est ça exactement. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment est-ce que vous, qui êtes sorti des Beaux-Arts, donc en étant graphiste, publicitaire, comment est-ce que vous êtes revenu à la bande dessinée jusqu'à créer, co-créer les éditions Ego Comics?
Bah, je suis sorti de cette formation aux Beaux-Arts et il m'est arrivé ce qu'il arrive à tous les jeunes en fait, qui un jour cessent d'être à l'école et qui ne sont pas préparés parce que personne ne nous prépare à ça. Et c'est un trou noir incroyable, c'est un gouffre, c'était terrible et je ne savais plus du tout quoi faire de moi, hein, c'était incroyable. J'ai essayé de travailler dans le graphisme, j'ai été pigiste un peu dans des agences, mais je trouvais ça assez infernal comme travail. Et puis, c'est des histoires d'amis. Voilà, j'avais un très bon copain qui avait un très bon copain, qui m'a présenté, c'était Loïc Néou. On est devenus très proches. Et puis à ce moment-là, lui était très passionné d'autobiographie, dans le cinéma, dans la littérature, dans la bande dessinée. Alors la bande dessinée, il n'y avait pas grand-chose, mais lui, il était très intéressé par ce qui était en train de se passer du côté de l'association, qui venait à peine de se monter, hein, c'était le tout début. Il était très, très intéressé par ça. Et puis, on a commencé à constituer un groupe d'amis avec aussi, il y a eu Thierry Prévost qui s'est greffé à ça, Fabrice Nau qui est arrivé là-dedans. On a commencé à, voilà, il y a eu un cercle d'amis comme ça qui s'est constitué. Et on était en train de vivre un moment hyper important.
Oui, je vous entendais dire dans un podcast, vous disiez, on sentait qu'on était dans un instant et qu'il allait se passer quelque chose.
Bah, on n'a pas choisi de saisir un moment par opportunisme. C'est-à-dire que... on était tous agités, on était agités par des questions sur ce que devait être de la bande dessinée. On avait la sensation d'une grande fatigue, d'être extrêmement lassé d'une manière de faire. On était enthousiaste parce qu'on voyait que des éditeurs indépendants, l'association arrivait et en fait en se montant en collectif et en cherchant des sous à droite à gauche, arrivait à faire tout seul des livres et puis bah on était un peu fou quoi, je crois, enfin on s'est dit bah on va faire des livres et moi je me suis engagé dans cette histoire là mais une fois de plus j'avais pas du tout à l'esprit d'en faire. Je me disais pas du tout je vais faire de la bande dessinée là-dedans, je voulais plus en faire, hein. c'était fini. Puis en plus les Beaux-Arts m'avaient dégoûté du dessin. Ça, c'était... Enfin, de mon dessin. C'était, je voulais plus dessiner, je dessinais plus, c'était terminé. Et puis... mais par contre, bah, c'était de l'amitié. J'étais très proche de ces gens. C'était très humain. C'était une situation humaine qui était précieuse. Et puis, ça me passionnait. Les échanges, les débats, le projet était passionnant. Le projet Ego Comics, c'était passionnant. Et en fait, petit à petit... En m'associant à toute cette énergie, petit à petit, en fait, j'ai trouvé un rôle là-dedans. Je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Une sorte de rôle de médiateur. Parce que c'était des personnalités très compliquées. Tous. Ils étaient très compliqués. Et il fallait quelqu'un, en fait, là-dedans, un peu plus souple. Il fallait une bonne patte pour créer la sauce qui allait faire que ça allait prendre quoi. Et en fait j'ai un petit peu fait là, voilà, j'ai un peu fait ça et puis j'ai vu des travaux arriver parce qu'on est parti sur une revue. Au début on voulait faire le début d'Ego Comics, c'est juste faire une revue, hein. Il n'y avait pas d'autre ambition.
Et vous receviez beaucoup de récits intimes
et c'était un hasard total. On n'avait pas donné de directive. On n'avait pas donné de il n'y avait pas de mot d'ordre, on n'avait pas dit on veut que de l'autobiographie. Mais Loïc recevait des planches et à chaque fois il me les montrait avec un grand sourire et il me disait regarde, encore un récit de vie, encore un récit intime, encore quelqu'un qui. Et c'était un signe, c'était incroyable. Parce que je crois qu'il y a eu un besoin à un moment donné, à ce moment-là, de que cette chose existe. Et puis, les récits arrivant, moi, ce dont je me suis rendu compte surtout, c'est que il y avait une opportunité d'attraper des libertés auxquelles je n'avais pas pensé en fait avant. Des libertés de ton, des libertés de forme. Et en fait, je me suis dit, mais c'est comme un laboratoire ce truc, il faut... On a le droit de se tromper, on a le droit d'être nul, en fait, on a le droit d'essayer des choses. Et je me suis mis à essayer des choses. Et je n'ai jamais arrêté, en fait, de faire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai jamais, à un moment donné, établi une façon de faire en me disant, c'est comme ça, c'est mon style, et puis j'en bouge plus. Et du jour où je m'y suis remis, à 25 ans, je sais plus, où j'ai ressorti mon papier, mais... Et puis j'ai essayé de faire des choses, ben, ma démarche a toujours été la même. C'est, on a le droit d'essayer de faire des choses comme ça. Voilà. Et c'est comme ça que petit à petit l'envie est montée. Mais c'était l'envie, c'était l'envie d'essayer. C'était d'expérimenter des choses. Je ne me suis jamais senti légitime pour installer quelque chose en me disant ça roule et je le fais tourner. Et d'abord parce que ça m'ennuyait. Et puis parce que j'étais pas sûr de moi. Et alors j'essayais des choses, et puis une fois que c'était essayé, bah, j'arrêtais. Voilà.
Mais ce que j'entends dans ce que vous dites, parce que vous parlez de la réception de ces récits intimes, et en même temps de leur forme, de justement cette liberté que vous voyez à l'œuvre, et ce qui est intéressant, c'est qu'on perçoit que c'est extrêmement lié, évidemment que texte et image sont extrêmement liés dans la bande dessinée, mais que dans votre envie de vous y remettre, il y avait les deux en même temps. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'il y avait l'envie de cette liberté graphique de dessiner, mais l'envie de raconter aussi. Et comment est-ce que finalement ça vous a pris dans sa totalité? Non, pas totalement.
Très clairement, il y avait l'envie d'écrire, il y avait l'envie de parler. J'avais plein de choses à exprimer, quoi. J'avais vraiment plein des envies. Je me sentais, alors, puisque quand on est jeune, on est encore plus émotionnellement agité, quoi. Donc, moi, j'ai été un jeune très, très, très compliqué émotionnellement. Ça s'est moyennement arrangé, hein, mais ça se voit un peu moins, sauf en certaines circonstances. Mais donc, j'avais besoin de mettre à l'écrit des pensées, des émotions, des choses comme ça. Et puis, ça a toujours été le point de départ. Le point de départ, ça a toujours été les mots. Et puis, je sentais que j'étais pas un faiseur de mots, juste. Enfin, qu'ensuite, il fallait que je mette les choses dans une perspective. Il fallait que j'installe un axe XY, une temporalité, un rythme, une forme plastique. Il fallait que je trouve la matière, en fait, de tout ça. J'aurais jamais su me contenter uniquement des mots. C'était voilà. Et à l'inverse, je n'aurais jamais, et je ne peux pas faire de la bande dessinée sans texte. J'ai commis un livre sans mots, mais c'est un livre avec
la cinquième couche.
Oui, avec des dessins qui sont pas narratifs. Enfin, qui ne sont pas séquentiels, on va dire. C'est sûrement très narratif, mais ce n'est pas séquentiel. Et il n'y a que dans ce cas de figure-là que j'ai réussi à me passer du texte, quoi, en fait.
Vous disiez, j'avais beaucoup, beaucoup de choses à dire. Vous dites que dans Sainte Famille, qui est donc votre premier livre publié chez Ego Comics, vous étiez terrifié à l'idée de ne pas dire tout ce que vous croyez devoir dire à l'époque. C'est peut-être aussi toujours le cas quand on fait un premier livre. En tout cas, je vous ai entendu dire ça, qu'au moment de la réalisation du livre, vous aviez peur de ne pas réussir à mettre tout ce que vous vouliez y mettre.
Je ne sais même pas si je suis capable de répondre à cette question, parce que le process est tellement loin dans ma tête. Sainte Famille, c'est un livre qui a couvé vraiment longtemps, qui a infusé très longtemps, pour lequel il y a eu des tentatives de forme, des débuts ratés, enfin des débuts abandonnés, et puis il y a un moment donné, j'ai l'impression que j'ai enfoncé une porte, et puis qu'une fois que la porte a été ouverte, c'était un long couloir et qu'il fallait aller au bout de tout ça. Et en fait, c'est une BD ultra exutoire, hein. J'en ai pas fait d'autres à ce point. C'est à un tel point que je peux plus l'assumer, ce livre. C'est plus possible. Ça regorge d'un tas de pensées, de sentiments, de choses qui m'envahissaient, dont j'arrivais pas à me débarrasser. Je sentais qu'il fallait que je le fasse absolument. Enfin, c'était j'avais obligation à le faire, ce truc. Et j'ai un peu de mal à en parler de ce livre, hein. C'est un peu compliqué, mais bon, enfin voilà, c'est...
Mais est-ce que vous vous souvenez de l'émotion que ça a été de voir son livre publié, d'avoir l'objet livre entre les
mains? C'est horrible. Ouais. C'est horrible, parce qu'en fait, on se berce d'une illusion, en fait, au moment où on est en train de le faire. Enfin, il faut quand même se remettre dans l'époque, hein. Il y a de l'autobiographie, ça émerge. À la fois, il y a une autorisation absolue, c'est-à-dire qu'on est à l'avant-garde de quelque chose, on est quelques-uns à le faire. On sent que dans la radicalité, on peut aller super loin. Donc on a envie d'être radical, parce que ça a du sens, parce qu'il faut le faire, parce que ça fait bouger les lignes. Et en même temps, on n'a pas de repère. On n'a pas de repère de savoir est-ce que je vais trop loin, est-ce que c'est digeste en fait ce que je suis en train de faire. On manque de beaucoup de repères. Et
donc quand on a le livre entre les mains,
et ben c'est horrible, parce qu'en fait le moment où on le fait, on se coupe complètement de l'idée qu'on est en train de faire un livre. Moi, j'étais pas. C'est le seul livre que j'ai fait comme ça. Hein, où en fait, quand je l'ai fait en me disant si je le fais pas, je meurs. Tu vois. Et c'était facile. J'étais tout seul chez moi. Il y avait personne qui me regardait. Je crois que j'avais un peu l'impression que je le finirais jamais. En plus, ça aussi, c'est très rassurant. C'est de faire un livre comme ça pendant des années en se disant de toute façon c'est, je peux faire ce que je veux, de toute façon personne ne le verra jamais. Donc j'avançais tête baissée dans mon truc en me disant ça sera jamais fini, et du coup je me donnais tous les droits. Et puis sauf qu'à un moment donné, ça devient effectivement un livre. Et
les gens le lisent.
Et là je me dis c'est dommage parce que j'ai pas assez réalisé que j'étais en train de faire un livre. J'ai pas assez réalisé ça. Il aurait fallu, en fait, clairement, Sainte Famille, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'une fois que j'ai eu fait ce travail d'auteur, là, de produire toute cette matière-là, il aurait fallu passer un an, deux ans avec mon éditeur de l'époque. C'était pas son idée de faire ça, mais il aurait fallu que quelqu'un vienne, s'invite dans le processus et passe un an avec moi à travailler là-dessus, à dire maintenant on va faire un livre.
Tout est posé, maintenant que ce qui devait être posé, cette idée d'exutoire, s'est fait, et maintenant comment est-ce que...
Voilà. C'est d'ailleurs ce que j'ai trouvé après avec Casterman, quand j'ai été faire Carnation chez Casterman. C'est ce qui a fait que j'ai décidé de faire ce livre avec Casterman, c'est ma rencontre avec Martin Zeller, mon éditeur, qui tout de suite avant même que j'ai signé pour eux, m'a envoyé des mails avec une analyse du travail que j'avais fait et avec des propositions de pistes de travail. Et j'ai trouvé ça tellement rassurant. Puis il le faisait bien, il est bon. Enfin, je m'étais rendu compte que j'avais structuré un récit, en fait, alors je suis parti sur Carnation maintenant, mais...
On va parler de Carnation et des pistes invisibles, évidemment, mais j'aimerais qu'on parle juste un instant d'une expérience qui a été aussi importante dans votre vie. C'est le moment où vous avez travaillé sur le film Kirikou de Michel Oslo, le premier Kirikou, et d'un moment donné où vous avez décidé de démissionner, mais où ça a été extrêmement important dans la réalisation qu'il fallait justement foncer et justement oser faire ce que vous aviez envie de faire. Que vous pouvez nous raconter rapidement.
Oui, rapidement, parce que j'ai déjà raconté cette histoire, mais peut-être que pour ceux qui ne la connaissent pas, je travaille donc dans le dessin animé à ce moment-là, toujours pour des raisons sociales, en fait. Hein, il faut que je travaille, donc j'ai eu une expérience de 3 ans dans le dessin animé, et le hasard, la chance, je suis tombé dans un studio où est arrivé Michel Oslo avec son film, et donc j'ai travaillé avec lui, comme on était une petite équipe très resserrée, j'ai beaucoup travaillé avec lui, on était très proches, en fait. Et puis est arrivé un incident à un moment donné, les producteurs se sont rétractés ils ont menacé de se rétracter si Michel Oslo ne rhabillait pas les femmes nues qui avaient les seins nus. Nous on l'a vu faire et il a tenu bon en fait, hein, c'était quelque chose. Hein, c'était compliqué parce que c'était. Alors, on lui demandait qu'est-ce que tu préfères ? Avoir un film avec des femmes rhabillées ou pas de film du tout. Et lui, il disait, on va faire le film avec les femmes au sein nu. Il répondait ce qu'il avait envie de répondre, et puis voilà. Et donc il s'est tenu à son truc, ça a été une sacrée histoire. Et toute l'équipe, qu'on était salariés, nous on n'était pas auteurs de son film, hein. On a tous mis nos emplois, nos démissions, on a dit bah, si le producteur a gain de cause, nous on lâche. L'équipe démissionne. On était presque tous. Voilà. Et donc ça a duré très longtemps. Tellement longtemps qu'il y a eu un turnover au niveau des producteurs et les personnes ont changé. Et donc il a eu un nouvel interlocuteur qui lui a dit hein, bon quoi hein? Oh non, on s'en fout. Oh non, pourquoi? Pourquoi? Ah, le marché américain. Oh mais le marché américain, de toute façon, vous inquiétez pas, ils le passeront pas, votre film. De toute façon, ce qu'ils feront, c'est qu'ils achèteront les droits et ils feront le leur. Ou ils le feront pas, mais en tout cas, c'est eux qui auront les droits, personne d'autre pourra le faire. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, à terme. Disney a acheté Kirikou. Personne ne le sait, ça. Disney a acheté les droits sur Kirikou, mais c'est pour que d'autres ne le fassent pas. Michel m'avait expliqué ça à l'époque. Voilà, c'est pour garder le truc, pour que ça soit pas. Voilà. Ils le feront pas, mais au moins personne d'autre le fera. Et voilà, et bien moi j'ai. C'était un homme admirable, quoi. Enfin, je trouvais qu'il était mais tellement engagé dans son truc. Et puis, surtout, moi, je bossais comme un dingue, en fait, sur son film. J'ai bossé comme un fou. Et puis, à un moment donné, j'ai fait le compte. Je lui ai dit, mais en fait, j'ai de l'énergie, en fait. Enfin, j'ai une force de travail, en fait. Enfin, et puis, c'est bien de se battre pour les autres, mais. Et si j'essayais aussi un peu de produire quelques efforts un peu combatifs pour mon propre truc. Et donc, c'est en fait cet événement et ce film et cette histoire de seins nus, c'est voilà, c'est le moment où je me suis dit, bah, écoute, il faut que tu démissionnes. Faut que tu arrêtes de faire ça et que tu te lances dans ton truc, quoi. C'est ce qui m'a donné le courage de le faire. Voilà.
Martin Zeller, dont vous parliez à l'instant, qui est donc votre éditeur, qui a été donc éditeur chez Casterman quand il vous a accompagné sur Carnation, qui était éditeur chez Albin Michel. On va parler pour les pistes invisibles. Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Et comment est-ce que, quelle place est-ce qu'il peut y avoir dans votre processus de création pour un éditeur? Vous nous avez parlé de ce mail qu'il vous a envoyé avec quelque chose d'extrêmement détaillé, d'une lecture d'un livre que vous aviez déjà réalisé, mais je vous entendais raconter que sur Carnation, il y avait quelque chose de très improvisé. Donc il y a aussi une grande confiance d'un éditeur qui dit, OK, on y va et je te suis dans cette improvisation-là, dans cette création-là. Quelle place est-ce qu'il y a dans ce processus pour un éditeur? À quel niveau, à quel endroit est-ce que il vous a.
Carnation, c'est ce qu'on appelle la post prod pour moi. Carnation, j'ai fait. C'est le livre qui m'a pris le plus de temps à faire. Hein. C'est une dizaine d'années de travail parce que c'était extrêmement dur à faire et que en fait je m'en détournais. Je faisais face au truc, je faisais des planches et puis d'un moment je m'en détournais parce que c'était trop dur. Et donc il m'a fallu 10 ans juste pour voilà, trouver cycliquement les phases de courage qu'il fallait pour aller jusqu'au bout. Et puis quand ça a été terminé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? C'était pas trop question de le faire chez Ego Comics, parce qu'Ego Comics était en train de se casser la figure. Je commençais à plus bien m'entendre avec Loïc, ça commençait à être compliqué entre nous. Il y avait une confiance altérée entre nous. Et puis lui, il n'avait plus envie de faire de la bande dessinée, il le disait beaucoup à l'époque, hein. Donc je me disais, bah, j'ai pas fait 10 ans à un livre pour qu'il se retrouve dans un catalogue avec un gars en qui j'ai plus super confiance et qu'une maison d'édition qui est en train de boire le bouillon. Donc j'étais vraiment paumé. Je ne savais pas quoi faire. Et j'en ai parlé à un ami qui était un voisin. Et encore les hasards de la vie, qui est en fait Johan Constantin, qui est l'éditeur de The Hoochie Coochie, que j'ai rencontré complètement par hasard. C'était mon voisin, voilà. Et qui m'a dit, écoute, il y a Benoît Mouchard qui a été recruté par Casterman, qui est maintenant le directeur de éditorial de Casterman, il paraît qu'il cherche des projets. Donc, t'as qu'à essayer de le contacter. Voilà, donc j'ai envoyé sur Facebook, je crois que j'ai envoyé un message en lui disant, je sais pas si tu te rappelles de moi, on a dû se croiser du temps d'Angoulême. Il m'a tout de suite répondu,
Parce que
tel
Benoît
jour.
Mouchoir était l'ancien directeur artistique du
Pardon,
Festival
pardon, pardon,
d'Angoulême.
excusez-moi, oui, qui était l'ancien directeur artistique du salon du Festival de la bande dessinée. Un type charmant. Vraiment, hein, un type incroyable. Et donc, on se retrouve dans un café et j'amène mon tas de photocopies comme ça. Et alors, il prend le tas de photocopies, il fait... Comme ça, tu fais... Pop, il referme, il dit, c'est magnifique, viens lundi au bureau. Mais je lui dis, mais tu veux pas le lire d'abord? Tu veux pas le lire d'abord? Il dit, oui, je vais le lire, mais viens lundi au bureau. Alors, je sais pas trop... Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je sais pas. Il a pensé à Sainte Famille, qui avait été nominé à un prix. Il avait peut-être bien aimé. Il s'est dit, ah, je sais pas. Enfin bon, mais vraiment.
C'est passé un truc.
Mais il m'a donné un rendez-vous avant de l'avoir. Vraiment, il a feuilleté. Allez, faut voir comme ça, allez hop. Et puis, je suis arrivé lundi au bureau de Casterman. Et puis, il m'a présenté Martin. Et puis, voilà, il m'a dit, écoute, il y a moyen d'en faire un livre. Voilà, c'est exactement ce que je voulais entendre, quoi. C'est un super travail. Mais tel quel, c'est 5 livres différents. On peut extraire des choses et faire 5 livres. Donc si tu veux que ça soit, que ça devienne un livre, il y a un gros travail à faire, il va falloir renoncer à certaines choses. Ah, super, très bien. donc Martin, c'est le travail qu'il a fait, en fait. Il a fait la lecture de ce livre et il a isolé les propos, il a isolé les parties de tout ça, voilà. Il a isolé la trame principale, que j'avais très moyennement identifiée d'ailleurs. Il a isolé cette trame et puis il m'a donné un plan. Planche par planche, il m'a donné un plan avec des suggestions de réorganisation, de coupe, de montage, de post-production, vraiment. Et puis, je n'ai pas eu le moindre souci à renoncer à des choses. Et j'ai même le souvenir d'une séance de travail qui était drôle, où en fait, on avait tout sur la table et je lui disais, mais ça aussi, on peut le bazarder.
Ça alors aussi, non, là, ça va, il n'y a plus que 20 pages.
Si ça, on l'enlève, regarde, c'est vachement mieux. Ah oui, t'as raison, c'est mieux. Donc, j'ai pas du tout de soucis avec ça. Et d'ailleurs, quand le livre a été édité, quelques années après, quand ils l'ont réédité dans la collection Écriture, Martin m'a dit, écoute, si tu veux, on remet les planches qu'on avait enlevées. Et j'ai regardé, mais tu te moques de moi. Mais ça n'a aucun sens. Je dis, ça n'a aucun sens de faire ça. On a fabriqué un livre ensemble en faisant ça. Enfin, pour moi, il est presque co-auteur, en fait. Enfin, il y a un truc moins que le livre d'après. Le livre d'après, il m'a accompagné, mais alors c'était d'un truc incroyable. Et voilà, donc pour moi, c'était normal de faire ce travail-là, de renoncer à des choses. Je suis trop bavard, j'en dis trop, je dis trop de choses, donc il faut couper. C'est bien.
Mais c'est ça, et puis d'avoir la confiance, c'est-à-dire d'avoir le regard de quelqu'un où on sait qu'on a confiance en ce regard, et c'est ça qui s'est créé dans ce que vous racontez, et qui est absolument formidable quand ça arrive.
C'est sa brutalité qui m'a fait avoir confiance en lui, en fait. Mais c'est super drôle, enfin, on ne peut pas trop en parler, c'est parce que c'est un peu long, mais cette histoire avec Martin, elle est marrante, parce qu'il m'a fallu un peu de temps quand même, hein, pour lui faire confiance. Hein. Au début, je me suis dit, voilà, mais c'est qui ce gars? C'était compliqué, c'était super compliqué. Puis lui aussi, il ne comprenait pas des trucs. Il me disait, bon, quand même, il y a un truc que je ne comprends pas. Tes bonhommes, ils n'ont jamais la même tête. Il faudrait redessiner des têtes. Alors, je regarde, je dis, mais il n'a pas compris. Enfin, je me dis, mais je ne fais pas ça, en fait. Enfin, c'est pas mon idée. Puis d'abord, je ne saurais pas le faire. Je ne saurais pas faire ça. Et puis alors, il voit que ça brouille. Hein. Et puis, il part, il dit, bon, je vais y réfléchir. Et puis, il me rappelle, il me dit, ah, ça y est, j'ai compris. Il me dit, j'ai compris, c'est comme l'expressionnisme allemand. Parce qu'en fait, il venait de la bande dessinée franco-belge, enfin, il venait d'un truc. Et d'ailleurs, il me l'a dit après, il m'a dit le travail qu'il a fait avec moi sur Carnation. En fait, ça lui a fait. Ça a complètement modifié sa grille de lecture, en fait, sa perception du truc. Et c'est devenu un super partenaire de travail, vraiment. Voilà. Bon, je vais arrêter de parler de Martin parce que je pourrais en parler en fait pendant des heures. Hein.
Non, mais on va continuer d'en parler parce que c'est avec lui que vous avez travaillé pour les pistes invisibles et vous parliez du bonhomme. Ça nous fait une transition idéale puisque les pistes invisibles donc est sorti en 2023 chez Albin Michel et l'origine de ce livre, elle est à trouver dans la rencontre entre un fait divers. Vous allez peut-être nous en parler, mais surtout un fait divers et votre envie justement de vous émanciper de ce personnage de bande dessinée. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement comment est-ce que cette bande dessinée elle est née et peut-être ensuite comment est-ce que vous avez justement travaillé à nouveau avec Martin. Vous disiez il m'a encore plus accompagné sur le livre suivant.
Alors bon, je prends toujours des grandes décisions et puis après je reviens dessus. Mais après Carnation, j'ai pris une grande décision, c'est que la BD, c'était fini. Voilà. Alors...
Finalement, c'est le récit autobiographique qui était fini.
Oui, mais comme je ne voyais pas comment faire de la bande dessinée autrement qu'en faisant ça, en fait, c'est pour moi, c'était terminé, quoi. Je voulais plus entendre parler. Et puis, le temps a passé, puis je me suis rendu compte que bah, non seulement la bande dessinée s'était terminée, mais le dessin aussi. Que je dessinais plus, parce que c'était lié, en fait, tout ça. Et puis, ça a commencé à me peser. Et je me suis rendu compte que dans ma façon de me remettre au dessin, tout d'un coup, il n'y avait plus de bonhomme. C'était même un peu abstrait. Et puis là, j'ai commencé à... Ce qui est intéressant, c'est que je suis professeur dans une école de bande dessinée et j'ai été recruté à ce moment-là. Et donc, j'ai prévenu le directeur. Je lui ai dit, écoute, moi, le bon problème, c'est que là, la bande dessinée, moi, je suis en phase de rupture parce que j'ai l'impression que je suis arrivé au bout d'un truc et... Voilà, je suis face à un mur. Et il m'a dit, bah, c'est intéressant ça, justement. Et donc, je l'ai pris au pied de la lettre, en fait, et je suis arrivé devant mes étudiants, dans mon travail, avec ces impasses dans lesquelles j'étais. Et j'ai beaucoup formulé ça dans les sujets que je peux leur proposer. C'est comment on fait pour contourner tous ces trucs qu'on a trop vus, quoi. Que moi, j'en peux plus d'avoir fait, d'avoir lu, j'en peux plus de tout ça. Comment on contourne tout ça? Et en fait, c'est dans ce travail avec les élèves, il fallait que je trouve des idées de sujets à leur donner. Et en fait, en cherchant des idées de sujets, eh ben, j'identifiais les endroits où peut-être on pouvait essayer de faire bouger les lignes. Et donc, là, j'ai commencé à me dire, mais ah non, attends, c'est pas dit que j'en fasse plus, en fait. Enfin, je peux peut-être en refaire. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse à ça. Il y a peut-être moyen... Mais genre, je rêvais, à ce moment-là, je me disais, de tuer le bonhomme. C'est-à-dire, en fait, le bonhomme, j'en peux plus. Le motif du personnage, voilà, le motif séquentiel, la persistance reptilienne du personnage qu'on bouge d'une image à une autre, parce que c'est... Voilà, voilà, j'en peux plus. Donc, mais il y a moyen, peut-être, de faire quelque chose avec ça. Mais je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il y avait une réceptivité, enfin un état personnel qui était... hyper éveillé là-dessus, enfin j'étais à l'écoute quoi, je crois que je guettais quelque chose quoi. Et puis à un moment donné, je tombe sur un article sur cette histoire de gars d'ermite quoi, ce type qui son idée c'était de devenir invisible en fait, voilà, c'était de plus être vu par personne. Et son histoire m'est tellement passionné, mais j'ai trouvé qu'on se ressemblait, qu'à 20 ans il me ressemblait à moi à 20 ans quoi, qu'il y avait un truc qui était très très commun. Et je sais pas comment j'ai tilté, mais à un moment donné, je vais être honnête. Il y a un moment donné, j'ai eu des gros problèmes d'argent. J'avais plus de sous. Et je me suis dit, bon, je vais proposer un projet de bande dessinée au CNL pour avoir une bourse. Et puis comme ça va me mettre dos au mur. Et je suis obligé de la faire. Et puis d'abord, je l'aurai pas la bourse. Je l'aurai pas. Et donc, je suis parti sur un truc, cette histoire d'ermite là. Et j'ai fait des planches. J'ai commencé à faire 3, 4, 5 planches. Et puis en les faisant, je me suis dit, ah ouais, tiens, il y a un truc. Et bon, c'était pas au point encore, hein, mais voilà. Et donc, j'ai envoyé ça, mais en me disant, de toute façon, ils vont pas l'apprendre. C'est trop bancal. Et c'est trop radical surtout. Je l'ai eu. Et puis du moment où je l'ai eu, je me suis dit, il y a un moment donné, il va falloir être un peu professionnel, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un travail, c'est un travail, il faut le faire, voilà. Et donc je me suis lancé là-dedans. Et Martin Zeller là-dedans, écoute, Martin, j'étais parti il était parti de chez Casterman, il était chez Albin Michel, et Martin, il m'appelait une à deux fois par an, et il me disait, alors comment ça
va ?
Comment ça va ? Bon, ça va. Tu as des projets ? Non. Non, non. Bon, à l'année prochaine, il me rappelait comme ça, il me dit, alors t'en es où? Et puis en fait, c'est le premier à qui j'ai parlé de cette idée, de cette ermite, et il a trouvé ça génial. Et on s'est mis à parler, en fait, et il m'appelait, on parlait des heures au téléphone. On en parlait des heures, mais super longtemps. Et je lui disais, tiens, mais moi je suis gêné parce que je suis peut-être en train de faire un truc, mais je pense que en termes de bande dessinée, ça va pas t'intéresser parce que c'est trop radical. Il était chez Albin à ce moment-là, je lui disais, mais c'est trop radical, quoi. Tu vas voir, ça va être compliqué, quoi. Donc je lui ai fait lire, il m'a dit non, c'est super, il m'a accompagné sans le moindre accord de travail. C'est-à-dire que on n'a rien signé. C'était strictement, je dirais amical, je sais pas trop, mais il jouait le jeu. Et moi, je lui disais, non, mais moi, c'est trop tôt pour moi, hein, que je parle de contrat, je sais même pas si ça peut faire une bande dessinée. Il dit, non, pas de problème, on en parle, tout ça, on en parle. Il a joué le jeu, et ça a duré, mais vraiment des années, quoi. Des années de travail, quoi, là-dessus, de gestation. Et il m'a accompagné.
Et l'accompagnement, c'était vraiment dans ces échanges-là, c'est-à-dire le fait de lui en parler, le fait d'avoir ses retours sur ce que vous lui disiez, ça vraiment.
J'y serais jamais arrivé sans lui. D'abord, il m'a donné de la conviction, parce que ça l'intéressait. Donc je sentais qu'il y avait quelqu'un qui était dans l'attente, dans la confiance, donc ça me motivait. Et puis il me donnait des vraies super idées. Enfin, il était vraiment de bons conseils. C'était très bien. Et il me faisait aller. Moi, je partais sur quelque chose de tellement radical que je ne savais pas si ça allait être lisible au bout du compte. Et lui m'a amené sur ce qu'il fallait, en fait, pour que ça devienne lisible, que ça devienne un objet de bande dessinée. Et on a fait un travail, il a fait un travail d'éditeur. Quand on a signé, j'avais quasiment fini le livre. C'est lui qui m'a fait une proposition. Il m'a dit, écoute, voilà, on va te faire une proposition parce qu'on a envie de le faire. Ah, tu crois, t'es sûr? Bon, j'ai mis longtemps avant de signer, etc. Mais on a signé. Il y avait quelques dizaines de pages. Il restait quelques dizaines de pages à faire. C'était quasiment fini. Donc, voilà, excusez-moi, c'est long, hein.
D'ailleurs, non, mais c'est passionnant.
Lorraine, qui est ici assise là, était avec Martin et a fait un énorme travail ensuite avec moi sur les pistes invisibles, puisqu'elle travaillait chez Albin Michel à ce moment-là. A travaillé éditorial avec moi, très très précieux sur la fin. Pareil, hein, c'est tout un travail de structuration à la fin. Il fallait avoir une tête tellement carrée pour arriver à faire ça, que moi j'ai pas la tête carrée. Et voilà, puis Martin, il avait d'autres choses à faire. Je crois qu'il est demandé, il est parti. Je sais plus, non, il est parti après. Mais c'est Lorraine qui a hérité du travail avec moi. Et voilà, tous les deux, l'un comme l'autre. Hein. D'ailleurs, je voulais la remercier dans le livre, mais apparemment, ça ne se faisait pas. Donc voilà, c'est.
Là, c'est fait.
Voilà, voilà. Non, monsieur, elle le sait, je souvent dit.
Peut-être une question par rapport, justement, tout à l'heure, vous disiez qu'au départ de tout, il y avait l'écriture. Dans ce livre, à travers... on entre vraiment dans la tête de cet homme donc, qui a disparu pendant une vingtaine, 25 ans dans une forêt. Comment est-ce que vous avez trouvé cette voie qui, pour la première fois, était une autre voie que la vôtre?
Alors, j'ai mis longtemps à comprendre comment j'avais fait. J'ai compris il n'y a pas longtemps, parce qu'on m'a posé la question, j'y ai réfléchi et j'ai compris, en fait, clairement, on n'est pas capable d'avoir d'autres voix que la sienne, hein, ça me paraît, à moins d'être ventriloque, enfin voilà, on a sa voix, mais on a surtout l'usage de sa voix, et c'est la façon qu'on a d'utiliser sa voix. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est notamment la question de la musique. Parce que c'est le son et la musique, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie que ça soit comme un chant. J'ai envie que ça soit comme un... Que ça soit très sonore, que ça soit comme une mélopée. Qu'il y ait quelque chose... comme quelqu'un qui égrène... pas une prière, mais quelque chose... je voulais qu'il y ait un rythme très posé. J'ai beaucoup pensé à ça, au rythme, etc. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis toujours too much, j'en mets toujours trop. Donc en fait, il faut que je me coupe. En fait, il faut que je fasse un travail de il faut que je mette des choses hors champ. Et il faut que j'invite du blanc dans ma voix. C'est-à-dire que ben, c'est comme si tout d'un coup, je me mettais à vous parler calmement, chose que je ne fais pas pour l'instant, mais j'installais vraiment des silences et si je travaillais sur ce rythme de ma voix. Et j'ai travaillé là-dessus. Sur ma propre voix, mais produite autrement avec la question du blanc dans la voix. Et donc, ça raccourcissait mes phrases. J'avais choisi aussi un procédé entre le texte et l'image qui faisait que, comme les images ne sont pas illustratives, en fait, le texte, il suit un petit peu par moment, il suit son truc, mais c'est séquentiel. Donc, le séquençage, ça nécessite... des coupes, des coupures. On lit, ça coupe. On passe à l'image d'après, ça coupe. On passe à l'image d'après, ça coupe. Et donc, ça produit du rythme. Et donc, où on prend le blanc de la gouttière de la bande dessinée comme une ponctuation véritablement dans le rythme, ou alors on fait courir le texte sur plusieurs images, mais c'est le même texte, mais tout d'un coup il respire. J'arrive pas trop à expliquer mon affaire là, mais l'idée de la césure au sein du texte, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans la ponctuation. On n'est pas dans la respiration naturelle ponctuée du texte, mais tout d'un coup, quelque chose qui, de manière artificielle, c'est comme une reprise de souffle. On parle, on ne s'arrête pas parce qu'il y a un silence qui s'impose, mais parce qu'on reprend son souffle. Et donc, il y avait des reprises de souffle, comme ça, tout le temps. Et j'ai juste... du coup, ça m'a tellement resserré sur les mots, que ça me resserrait aussi sur les images évoquées par les mots... Et je lisais à voix haute comme si j'étais en train de faire comme si c'était une chanson un peu. Enfin voilà, je voulais que ce soit comme une mélopée, voilà.
On faisait le lien entre musique et bande dessinée. Vous pratiquez également la musique expérimentale, mais je me demandais, en vous écoutant, alors pas quand vous lisez vos textes, mais est-ce que vous travaillez en musique ? Est-ce que la musique vous met dans des conditions particulières pour travailler selon les séquences,
Ça peut m'arriver, mais non, pas spécialement. J'ai pas besoin de ça. La musique, elle a son moment et elle a son domaine à elle. J'ai beaucoup de mal à me concentrer quand je suis en train d'écrire ou quand je suis en train de dessiner. Il me faut du silence, de toute façon, globalement. J'ai beaucoup de mal à travailler avec ou alors un brouhaha. Ça, j'aime beaucoup. À une époque, j'écrivais beaucoup dans les cafés. Maintenant, je fais ça un peu moins. Mais comme maintenant j'ai un fils et une compagne, à la maison il y a du brouhaha, donc je me sers du brouhaha familial, on va dire. Voilà. Mais cette espèce de bruit qui est en fond, qui est derrière, et un peu comme l'escalier derrière là. Voilà, non, c'est j'utilise pas la musique pour écrire.
Le temps passe très vite, et pour conserver du temps pour l'atelier, il va nous falloir bientôt conclure. Mais j'aimerais qu'on parle justement du dessin, et qui n'est pas sans lien justement avec l'atelier. Mais c'est votre première bande dessinée en couleur, avec des dessins faits de masse qui se superposent. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler des techniques de dessin, de cette envie de travailler en bichromie, de s'inspirer de la sérigraphie? Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de comment est-ce que vous avez pensé
utiliser cette technique? J'en ai envie depuis extrêmement longtemps, mais vraiment très 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 longtemps. Elle m'intéresse parce que elle a pour point de départ le noir et le blanc. Pour faire une image en deux couleurs, par exemple, moi c'est du orange et du bleu. Au départ, on dessine en noir. Chacune des couleurs, elle est d'abord dessinée en noir. Et puis ensuite, le procédé de fabrication du livre va transformer le noir dans une couleur. Et la rencontre, en fait, comment dire, la forme définitive du livre. Et c'est ça qui est chouette. C'est pour ça qu'un livre, ça a du sens de faire un livre. Elle est intimement liée au processus de fabrication du livre. C'est l'impression du livre, sa fabrication qui fait apparaître le dessin. Et puis moi, ce que je trouvais très intéressant, c'est que à tester quoi, à essayer. D'abord, c'est que je savais pas le faire. J'avais jamais fait ça, donc c'était une aventure. C'était comment on fait. J'ai trouvé ça hyper excitant à tester. Et puis du coup, j'aimais bien parce que ça me prenait à revers, ça me surprenait tout le temps. Parce que il faut bien comprendre un truc, c'est que je faisais pas mes dessins. En gros, mon dessin existe, il est en noir et blanc, et puis après je le mets en couleur. Ça marchait pas comme ça du tout. Je savais pas à quoi ressemblaient mes dessins. Je faisais une partie du dessin dans une couleur, une partie du dessin en noir, en sachant qu'il allait devenir une couleur. L'autre partie du dessin en noir, en sachant qu'il allait devenir l'autre couleur, mais je les faisais séparément, et fondamentalement, qu'est-ce que ça va devenir quand ça va se rencontrer, ben je le découvrais
Et c'est ce que vous aimiez, l'accident, l'imprévu,
oui, oui, oui. L'apprentissage aussi du truc, c'est-à-dire comment on fait pour maîtriser ça? Comment on fait pour dépasser le moment un peu expérimental, rigolo, où ça fait des surprises, comment on dompte en fait le procédé pour lui faire exactement ce qu'on veut. Et c'est ce que j'ai réussi finalement, au bout du compte, à faire. C'est-à-dire que quand je faisais mes demi-dessins en noir, eh ben je savais ce qui allait se passer ensuite quand l'autre partie allait arriver, je savais. J'ai expliqué ça un peu vite, c'est pas facile.
Non, mais pour le coup,
c'est pas évident à comprendre parce qu'on a vraiment une culture de tout cela. On a cette culture de se dire en fait que le dessin préexiste, que le dessinateur il est tout puissant, il fait son dessin, son geste créatif, il est au moment où il fait ce dessin. Il a la vision de ce qu'il fait à ce moment-là, et ensuite la couleur, ça devient un habillage. Et là, vraiment, quand on regarde mes originaux en noir et blanc, c'est abstrait. On comprend pas ce que c'est. C'est quand les couches se rencontrent que le dessin apparaît, vraiment. Donc c'est une gymnastique de l'esprit qui est très particulière, voilà.
Je vois qu'il nous reste quelques minutes à peine. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Xavier? Oui. Revenir sur la notion de radicalité. Est-ce que c'est la transgression des codes, des normes? Qu'est-ce que vous entendez par radical?
Oui, c'est ça. C'est qu'il y a des usages. En fait, c'est la question de contourner un usage, une convention collective. On a l'habitude de... Alors la bande dessinée, c'est un lieu de convention collective. C'est un endroit où il y a une question de langage. C'est pas facile en fait, hein, quand on fait de la narration en bande dessinée, c'est pas facile d'être compris. Enfin, je me rends compte dans mon travail de professeur, des fois, enfin, on travaille beaucoup là-dessus, quoi. Et des fois, c'est pas clair, hein. C'est très compliqué. Donc, la lisibilité du langage, elle est très importante. Et donc, sur quoi on s'appuie pour rendre un langage lisible? On l'appuie sur des conventions collectives, sur des usages. Donc l'auteur de bande dessinée, il est dépendant de ça. C'est très compliqué pour un auteur de bande dessinée de se dire ben, je vais bousculer une convention de langage, je vais réinventer du langage. Il sait très bien qu'en fait, s'il le fait, il va se heurter à l'incompréhension, en tout cas à la difficulté de lire ces choses-là. Donc moi, c'est de cette radicalité. Voilà. En fait, au moment où j'ai parlé de la radicalité, j'en ai parlé à plusieurs moments, mais c'est en tout cas la radicalité à laquelle je me suis confronté sur ce livre, ici. C'est-à-dire de me dire, si, il faut oser le faire, en fait. C'est tenter de contourner ces usages. Et puis après, la radicalité dans les années 90, au moment de l'autobiographie, c'est surtout qu'il y avait une immense... crainte, quoi. Ce qui se disait beaucoup à l'époque, c'est « Ah, c'est dégueulasse, enfin, le moi, c'est dégueulasse. » L'autobiographie, ça se faisait pas du tout. C'était « Ah, c'est nombriliste, c'est prétentieux, c'est de droite. » Enfin, des trucs comme... C'est tout que j'entendais, hein. Donc, il y avait vraiment un refus, quoi. C'était dégueulasse de faire ça. C'était vraiment montrer son anatomie, quoi. C'était sale, quoi. Donc, la radicalité, c'était de le faire et pas de le faire à moitié. C'est un truc qui a vraiment marqué notre génération, hein, c'est qu'on l'a fait de manière un peu violente, quoi. Parce qu'il fallait, parce que on nous disait trop qu'on pouvait pas le faire. Donc là, aujourd'hui, moi, je reçois l'apaisement de l'autobiographie avec beaucoup d'enthousiasme. Je trouve très chouette que maintenant, l'autobiographie ait trouvé cette façon de procéder avec plus de finesse qu'à notre époque. Mais c'est pas, ils peuvent le faire parce qu'on a été bourrins. Parce qu'on a été extrêmement violent et qu'on a fait tomber des... Je dis on, ça paraît un peu prétentieux de se mettre... Mais bon, j'étais à ce moment-là, à cet endroit-là, voilà. On l'a fait, on a bousculé le truc à cette époque-là, et on ne l'aurait pas fait, ce serait à eux de le faire. Hein. Et quand les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas. Donc voilà.
Peut-être juste un dernier mot très rapide, mais je le disais tout à l'heure, donc il y aura l'exposition du 7 au 21 décembre à la galerie Cécilia F. Tout à l'heure, vous disiez recevoir, avoir pour la première fois son premier livre entre les mains, c'est horrible. J'espère que vous ne me ferez pas la même réponse quand je vais vous poser cette question, de savoir qu'est-ce que ça fait de se replonger justement dans les œuvres passées pour sélectionner des choses à montrer à des gens qui vont venir voir cette exposition, puisque c'est une exposition rétrospective. Alors, je ne vais pas vous demander de nous raconter exactement ce qu'il y aura dans cette exposition, mais qu'est-ce que ça fait de se replonger dedans et de se dire qu'est-ce qu'on va montrer aux personnes à qui je dois présenter en quelques planches voilà, ce que c'est mon œuvre.
C'est particulier parce que d'abord, c'est la première fois qu'on me le propose. Tout compte fait, j'étais bien avec l'idée qu'on ne me le propose pas avant parce que ça me permettait de ne pas avoir à gérer ça. Non, c'est super compliqué en fait. Hein, c'est super compliqué. Au début, je voulais montrer aucune planche de Sainte Famille. D'ailleurs, c'était un peu comique hein, quand l'équipe de Sobélé est venue à la maison pour faire le choix de planche. À chaque planche de Sainte Famille, je leur disais non, c'est pas possible, c'est trop, c'est pas possible, c'est pas possible. Au final, il y en aura, je crois qu'on en a retenu quelques-unes. Mais voilà, après, tous les autres, tout le reste, je l'assume en fait. Carnation, tout ça, je l'assume. Donc non, je suis content. Après, je suis pas le mec le plus assuré sur Terre. Donc, bon, en fait, je suis obligé de faire confiance là-dessus. Hein. Me dire, écoute, ils veulent. C'est pas moi qui ai été les chercher. Hein, ils veulent montrer mon travail. C'est qu'ils doivent penser que ça doit valoir le coup. Donc là-dessus, je me laisse faire, mais avec une énorme appréhension. Hein, voilà, parce que je suis pas rodé hein, dans l'exercice. Et puis, c'est tout bête, mais j'aurais plus envie de montrer ce que je suis en train de faire. Mais que je ne peux pas montrer parce que je suis en train de le faire. Donc voilà. Non, j'ai pas grand chose de très intelligent à répondre sur cette question-là. C'est juste très inconfortable comme truc. Voilà.
Bon, en tout cas, on a hâte de découvrir cette exposition donc à partir du 7 décembre. Merci infiniment, Xavier. Merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Et je vous rappelle donc que ce week-end, c'est le Sobédé à la Halle des Blancs-Manteaux. Et maintenant, place à l'atelier. Merci beaucoup.